Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions abordé la question posée à la laïcité par la montée de l'islam en France, alors que cette religion n'est pas intégrée en tant que telle dans la loi de 1905. Pour y répondre, les gouvernements successifs ont tenté, depuis près de 30 ans, d'établir un dialogue avec l'islam et le faire entrer d'une façon ou d'une autre dans les dispositions de la loi de séparation des églises. Nous allons voir que ces tentatives n'ont rien de simple, car il faut bien comprendre qu'il n'existe pas réellement un islam en France, comme il y a une église catholique, mais des islams, suivant les origines géographiques des musulmans et leur appartenance à telle ou telle branche de l'islam, en particulier le sunnisme et le chiisme. Considérant que la première urgence était de pouvoir dialoguer avec la diaspora des musulmans en France, Pierre Joxe, alors ministre de l'Intérieur, constitue en mars 1990 le Conseil de réflexion sur l'islam de France. En 1999, l'un de ses successeurs, Jean-Pierre Chevènement, cherche à créer une instance centrale représentative du culte musulman. Le 28 janvier 2000, il fait signer par les responsables musulmans une déclaration sur les principes et fondements régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France. Cette déclaration stipule notamment que les associations musulmanes signataires confirment solennellement leur attachement aux dispositions de la loi de 1905 et aux principes fondamentaux de la République française, et notamment la liberté de la presse et de la religion, le caractère laïque de notre État et le respect par lui de toutes les croyances. En 2002, Nicolas Sarkozy crée le Conseil français du culte musulman, CFCM. Il en organise les élections au printemps de 2003, mais de façon à ce que l'Union des organisations islamiques de France n'y prenne pas le pouvoir, notamment par un marchandage sur le voile islamique. Le Conseil français du culte musulman aurait dû se limiter aux questions strictement religieuses et ressembler au consistoire juif, chargé d'organiser le culte hébraïque. Mais dans les faits, il correspond plus au Conseil représentatif des institutions juives de France, qui se définit lui-même comme le porte-parole et le représentant politique de la communauté juive auprès des pouvoirs publics. En effet, Nicolas Sarkozy a voulu faire du Conseil français du culte musulman un instrument de la paix sociale dans les quartiers et les banlieues, alors que ce problème relève de la seule responsabilité du gouvernement français, seul chargé de garantir les libertés et la sécurité publique. En clair, après avoir suscité une organisation représentative du culte musulman pour lui donner des droits et le soumettre à des devoirs, l'État français a mélangé sciemment le religieux, le politique et le social, ce qui est contraire à la loi de la séparation. Manuel Valls a considéré cela comme une faute. Ce genre d'action, pour permettre une relation entre l'islam en France et l'État, a continué ensuite. Par exemple, Bernard Cazeneuve relance le 8 décembre 2016 la fondation de l'islam de France, ayant une vocation éducative, culturelle et sociale, avec la lutte contre l'idéologie salafiste. Et il tente également de mettre en place une association cultuelle musulmane nationale. Mais la Grande Mosquée de Paris refuse d'y participer. Ainsi, depuis plus de 25 ans, les ministres de l'Intérieur successifs, qui sont aussi ministres des cultes, ont donc tenté de jouer un rôle de médiateur entre les partis pour en arriver à la constitution d'un partenaire constitutif de l'islam qui engage à respecter la laïcité et à gérer l'application de la loi de 1905. Cette instance devrait permettre au gouvernement d'ouvrir des dossiers qui méritent de l'être. Force est de constater que ces efforts n'ont pas porté tous les fruits escomptés et même ont parfois subi de cuisants échecs. Les structures en place ne parviennent pas aujourd'hui à convaincre ni la communauté musulmane ni les pouvoirs publics. La violence des batailles fratricides entre les communautés musulmanes, en conflit d'intérêts et d'influence permanent, empêche de véritables avancées sérieuses, en particulier sur le financement étranger de la formation des imams. Les organisations musulmanes n'ont d'ailleurs guère besoin d'entrer dans les dispositions de la loi de 1905. En effet, pour régler certains de ces problèmes pratiques, l'islam peut recourir à des textes existants. Des lois particulières peuvent toujours accorder des subventions publiques, comme ce fut le cas en 1920 pour la construction de la Grande Mosquée de Paris. Les cultes peuvent demander aux collectivités publiques de garantir les emprunts consentis pour la construction de lieux de culte dans les agglomérations en développement. Les élus locaux peuvent mettre des terrains communaux à disposition pour la construction d'édifices du culte par baux emphytéotiques, une formule très utilisée par les chantiers du cardinal en Île-de-France. Si une collectivité publique ne peut pas subventionner directement la construction d'un édifice du culte, elle peut financer la partie culturelle éventuellement annexée à l'édifice, comme ce fut le cas du musée d'art sacré associé à la cathédrale d'Évry. Enfin, la formation des imams pourrait être assurée par les universités, comme cela se pratique déjà à Marseille et est envisagé à Paris. L'Institut catholique de Paris propose depuis 2008 une formation à la laïcité, tandis qu'une faculté de théologie musulmane, capable de recevoir quelques subventions publiques, pourrait être installée en Alsace-Moselle. Mais jusqu'à ce jour, personne n'est parvenu à créer un modèle national pour former les imams en France, faute d'interlocuteurs et malgré la volonté du gouvernement. Il ne serait donc pas nécessaire pour toutes ces questions de réviser la loi de 1905, sauf à préciser le champ d'intervention des associations cultuelles. En bref, la question posée à la laïcité française par la montée de l'islam n'est pas celle de l'ordre public, qui est de l'ordre de la responsabilité de l'État, mais celle de savoir si les musulmans de France, qui vivent sur notre territoire en situation de diaspora, sont disposés à respecter nos institutions et notre laïcité, par le moyen de dispositions législatives déjà existantes ou à inventer, et sans recourir à la constitution de zones de communautarisme. La prochaine fois, nous nous pencherons sur une autre question actuelle pour la laïcité, la poussée récurrente du laïcisme.